Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Bonjour à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis sur RMC avec au programme deux finales. C'est inhabituel, deux finales un jeudi. Ben Shelton, Brandon Nakashima, ça sera la finale de Montréal, le Masters 1000. Et chez les dames à Toronto, Iga Swiatek face à Elena Rybakina. Et on s'intéressera aussi à deux matchs des Françaises au premier tour de Cincinnati. Loïs Boisson et Diane Paris seront sur les cours aujourd'hui pour vous aider à parier sur ces quatre rencontres. J'accueille Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Bon Eric, tu avais tenté des coups hier et ça n'a pas fonctionné. Gauff n'a pas battu Rybakina en 3-7. Elle a même perdu. Mais il y a bien eu 3-7. Swiatek a battu Svitolina, ça tu l'avais annoncé. Et chez les hommes, tu t'attendais à une finale Rodar-Tin. Et finalement, on a Shelton-Nakashima. Alors, que tu joues Rodar, j'aurais fait comme toi. Tin-Shelton, moi j'aurais joué Shelton.
Oui, bah écoute, le face-à-face était en faveur de Tin, on en avait parlé avec
ouais.
Mais j'ai l'impression que Tin avait mal au bras et il a vraiment pas existé. Quoi. Mais bon, c'était du très bon Shelton, très motivé.
Ouais.
Donc il est sur la route du doublé.
Exactement.
À Toronto. Mais c'est une situation qui est très intéressante pour lui parce qu'il jouait gros avant ce tournoi et là il est assuré.
Il va rester dans le top 10.
Voilà, il va rester dans le top 10. Et il a même la possibilité de. Ouh là, oui, de faire un gros saut là, de 6e, je crois.
Ah oui, donc
ah oui, c'est intéressant.
Bon, a priori, ça devrait bien se passer pour Ben Shelton qui joue Brandon Nakashima, le 31e mondial. Pour ce duel entre deux Américains, 45 pour Shelton et 2,85 pour Nakashima. C'est complètement logique puisque Shelton mène 5-0 dans les confrontations et il s'est imposé 4 fois en 2-7 et une fois en 3. Et sur ces 5 confrontations, il y a eu 6 tie-breaks et sur les 5 matchs, le premier set s'est terminé sur un tie-break à 4 reprises. Alors, on n'a pas la cote du tie-break encore. En revanche, on a la cote du tie-break au premier set, à 2,50. Moi, je le tenterai parce que ça devient quasi systématique entre les deux joueurs. Shelton n'a pas perdu un set. Nakashima, lui, en a perdu 2. Shelton, c'est 12 victoires pour 3 défaites en 15 matchs sur le circuit nord-américain depuis le début de l'année. Il a gagné à Dallas, il a gagné aussi à Munich et à Stuttgart, ça c'était en Europe. Il s'est raté lors des deux premiers Masters 1000 américains, Indian Wells et Miami. Et là, bah, il ne va pas se rater puisqu'il est en finale et qu'a priori, il va remporter le tournoi. Nakashima s'était lui aussi raté, mais là, c'est vrai que depuis Wimbledon, son bilan est excellent puisqu'il avait fait une demi-finale à Washington. Et là, il se retrouve en finale à Montréal. Donc, c'est beau ce qu'il fait. Mais quand on a perdu 5 fois de suite contre Shelton, je pense qu'on va perdre une 6e fois.
Oui, enfin ça, c'est sous le papier. Parce que le dernier match, bah, c'était l'an passé à Toronto.
C'est la seule fois où il y a eu 3-7.
Ouais, mais, et quel match en 3 quand même, 6-7, ouais. 6-2, 7-6. Avec un tie-break final à 7 points à 5, donc ça c'était vraiment à rien. Nakashima, c'est un joueur qui est sous-coté, dont on parle peu, parce que bon, il fait pas d'histoire, il est assez discret sur le circuit, mais c'est l'un des meilleurs serveurs du circuit, parce que quand vous regardez les plus chez les stats, il a.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a des tie-breaks à chaque fois contre Shelton, en fait.
Il est très, très, très dur à breaker parce que. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un article dans l'équipe il y a quelques temps où Arthur Fils disait qu'il devait changer un peu son geste de service pour soulager son dos et qu'il voulait s'inspirer de Nakashima. Mmh. C'est vrai qu'au départ, on avait été tous surpris, mais on se rend compte que bah, son équipe avait vu juste parce que Nakashima, je le répète, c'est l'un des meilleurs serveurs du circuit. Il a un gros kick en deuxième balle, très très dur à. Mmh. Et à négocier. D'ailleurs, c'est là que Renard a été moins bon hier. Hein. Il était moins bon en retour de service. Très, très gêné par les trajectoires de balle de l'Américain. Bon, maintenant, si effectivement le 5-0,
il est parlant.
Il est parlant, mais.
Surtout 4 fois 2-7-0.
Ouais, mais il y a beaucoup de témoins, comme tu l'as dit.
Ah, bah, 6 en 5 matchs, c'est énorme.
Voilà, donc il suffit parfois que. Que ouais. Nakashima négocie mieux le premier tie-break et puis là, ça peut lui donner des ailes. Mais bon, l'expérience est quand même pour Shelton. Je l'ai dit.
Là, c'est ce que j'allais dire, Nakashima, c'est sa première finale de Masters.
Première finale, mais il est bien entouré, hein, puisqu'il est avec l'ancien pro, là, Wayne Ferreira.
Le Sud-Africain.
Un excellent coach. Ouais, le Sud-Africain, qui est un excellent coach, qui, évidemment, lui apporte beaucoup de choses. Puis voilà, il a l'âge de maturité, là, il a 25 berges, hein, je crois, c'est ça. Donc, ouais. C'est peut-être son heure. Hein. Mais bon, comme toi, je veux quand même aller sur Shelton parce qu'il dégage quand même une impression assez folle. Confiance, la surface lui convient parfaitement. Et il va arriver à l'US avec un sacré boost.
Bah oui, ça serait sa quatrième victoire en tournoi cette année. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir ce bilan-là. Est-ce qu'il faut jouer Shelton comme la dernière fois en trois manches avec ces histoires de tie-break? Ça me paraît pas inintéressant. Si on a envie d'une très grosse cote, 3-20 au lieu de 1-45, qu'est-ce que t'en penses? Faut tenter le 3-7?
C'est une finale, elle peut se passer dans une finale. Ouais. Je pense que le premier set va être déterminant, même si je suis convaincu que si Shelton perd le premier, il aura les ressources pour rebondir. Mais attention, hein, il a jamais été mis en difficulté depuis le début du tournoi. Et donc, ça peut être perturbant si jamais le...
Il a mis une sacrée tôle à Mensik, 3 et 1, je revois, là, c'est...
Ah oui, on était tous surpris. Ouais. Mais alors, je le redis...
Surpris par l'ampleur,
Ouais, je le redis, je pense que vraiment, hier, Tien, je l'ai vu à un moment, sûrement de côté, il se massait le bras, il avait très mal au bras, et ses vitesses au service, c'était vraiment pas terrible, quoi, donc... Je pense qu'on n'était pas à 100%. Mais bon, ça n'enlève rien à Shelton, qui est ultra motivé, je joue Shelton, ouais.
Oui, même si c'était le tour d'avant, évidemment.
Ouais, ouais. Et...
Donc, victoire de Shelton contre Brandon Nakashima. Et puis, la finale dames va opposer Iga Świątek à Elena Rybakina, deux joueuses qui se connaissent à la perfection, puisqu'il y a 12 confrontations. 6 victoires de Świątek, 6 victoires de Rybakina. Mais les deux derniers, eh bien, c'est Rybakina qui les a gagnés. Rybakina a gagné 2 tournois cette année. Świątek est toujours à la recherche de sa première victoire. Elle n'a pas joué en juillet. Elle a une collection d'éliminations en quart impressionnante, hein, Open d'Australie, Doha, Indian Wells, Stuttgart, demi à Rome, 8e à Roland. Elle a un bon bilan sur le circuit nord-américain, en comptant Indian Wells et Miami, elle a 80% de victoire. Bon, c'est normal, c'est une joueuse de très haut niveau, mais contre Rybakina, qui elle a souffert, hein, elle a perdu 4-7 en 5 matchs. À chaque fois, elle s'impose 2 manches à 1, mais elle gagne à chaque fois. Et son bilan sur le circuit nord-américain est remarquable, puisque en 15 matchs, une seule joueuse l'a battue. C'est Sabalenka, à 2 reprises. Rybakina était en demi à Miami, elle était en finale à Indian Wells, elle est en finale à Toronto, et je joue la grosse cote. Rybakina à 2-15, alors que c'est Świątek la favorite, Eric, à 1,72.
Oui, comme disait hier, Świątek a, semble-t-il, trouvé enfin son plan de jeu, parce qu'elle avait pas mal galéré, elle l'a reconnu elle-même, hein, c'est l'une des saisons les plus difficiles de sa carrière, et c'est vrai qu'elle n'avait pas atteint de finale depuis très 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 longtemps, depuis l'an dernier. Donc
c'est sa première finale en 2026.
C'est ça, ouais. Alors, je m'aperçois que ça, c'est un élément qui est souvent très important, c'est l'état de fraîcheur. Rybakina a eu la malchance, entre guillemets, de...
Elle a joué un match de moins, entre guillemets.
Ouais, et puis surtout, la malchance de jouer la deuxième demi. Je crois qu'elle a fini à plus d'une heure du matin. Elle a dit, je suis fatigué, je vais dormir dans mon lit. Et je pense qu'elle a beaucoup puisé dans ses réserves, déjà. Et puis, il y a aussi l'aspect en jeu, mental. Si elle gagne, elle se rapproche à 4 points de la place de numéro 1 mondial de Sabalenka. Autant dire que ça peut tomber à l'US Open, hein, puisque Sabalenka va défendre ses points. C'est-à-dire que si... il y a bien sûr Cincinnati qui va apporter des points, mais si Rybakina gagne l'US Open, elle aura quasi l'assurance d'être numéro 1 mondial. Donc ça, c'est bon, à condition qu'elle gagne Montréal, bien sûr, de Toronto. Moi, je vais jouer donc plutôt Świątek, parce que ça me plaît bien ce qu'elle fait là. C'est pas encore parfait, Mais tu sens que ça bosse tactiquement avec Francisco Roig, qui est en train d'apercevoir le bout du tunnel. Et même si elle a toujours des petits trous d'air, comme hier contre Vitolina, où dans le deuxième set, c'est un naufrage, bah, elle s'est battue. Et je pense que physiquement, elle en a peut-être plus sous la pédale que la Kazakh.
Ouais. C'est bien Rybakina hein, qui a joué, entre guillemets, un match de plus, puisqu'elle a joué trois manches de plus que Swiatek. Alors, pour aller dans ton sens, et même si moi, je vois plutôt la Kazakh s'imposer, sur les 12 confrontations, elles n'ont joué qu'une seule finale. C'était à Doha, il y a 2 ans, et c'était Swiatek qui s'était imposé. Voilà, ça, c'est un argument de plus qui va plutôt dans ton sens. On va s'intéresser au premier tour de Cincinnati avec deux Françaises. Loïse Boisson va jouer contre Ashlyn Kruger. On ne peut pas trouver dynamique autant différente. Kruger, l'américaine 58e mondiale, reste sur 17 victoires en 20 matchs. Bon, elle a gagné des tournois, plutôt des petits tournois, hein, mais elle était quand même en 8e de finale de Wimbledon après être passée par les qualifs. Et derrière, elle a gagné à Eclay, elle a fait demi à Birmingham. Donc, énormément de victoires. Donc, énormément de confiance. Tout le contraire de Loïse Boisson, qui, elle, a gagné un match en 2026 sur les 8 disputés contre Wang à Strasbourg. Elle est sur une série de 4 défaites série en cours. Donc, 1,39 Kruger, 3,10 Boisson. Eh ben, je jouerai Kruger, lapsus. Je jouerai Kruger et peut-être même 2,70. Ça, c'est coté 1,86. Alors, il y a une confrontation que j'ai retrouvée en 2022 sur un petit tournoi à Bellinzona en Suisse. Ou Boisson sur terre battue, hein, c'est pas pareil, avait gagné 1-0 contre Kruger. Mais bon, c'était il y a 4 ans, et c'était surtout sur terre battue. Donc, une Américaine à Cincinnati pour Boisson au premier tour, bah, je trouve que c'est vraiment un mauvais tirage. Surtout une Américaine en feu.
Oui, évidemment. C'est clair que, de toute façon, elle se cherche encore, hein, Loïs, alors. Au moins, il n'y a pas eu de blessure récente, puisque depuis qu'elle a posé le pied en Amérique du Nord, ça semble aller, quoi. Bon, alors les résultats ne sont pas extraordinaires. Elle a passé un tour en qualif à Toronto contre une Colombienne. Et derrière, elle a coincé contre une Croate. Là, c'est quand même une fille qui a quand même quelques états de service sur dire qui me perturbent, quoi. Mais bon, c'est le chemin, hein. L'avait dit dans un long post sur Instagram, elle se pose des questions, elle se demande s'il n'y a pas une injustice, puisque elle a passé beaucoup de temps dans les salles de gym à se refaire un corps. Là, visiblement, ça fonctionne. Bon, maintenant, ça va demander du temps, hein. Moi, je pense que cet adversaire, c'est un peu trop fort d'entrée. Bah, de toute façon, c'est un goût de vétérinaire, hein. Il n'y a pas de
problème.
Je vous défie très fort tout de suite. Donc effectivement, je vais...
Oui, Boisson est descendue à la 299e place mondiale, Eric.
Ben oui, bien sûr. Ouais.
Mais c'est terrible.
Bien sûr, elle était encore 156e à Wimbledon, et puis après, elle a perdu ses points de Hambourg de l'an passé, donc elle n'a pas pu jouer.
Donc, oui, c'était, oui, rappelle-nous son meilleur classement.
Je crois que c'était...
C'était top 20,
156.
Non,
non, non, quand même pas, je crois pas.
Non. Non. Okay. Bon, c'est la chute libre. Tu penses qu'elle va retrouver un niveau top 50?
Bah, cette année, ça me paraît compromis parce qu'elle part de trop loin, mais il faut juste que son corps la laisse tranquille, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que il y a du mieux. Hein. Déjà, Wimbledon, tu vois, elle a pris un set à Rybakina, ce qui était bien.
Oui, c'est vrai.
Malheureusement, sur ce match, elle s'était. Un peu blessé au genou, extension du genou, ce qui avait amené le forfait à Hambourg. Donc là, elle s'en sortait pas. Donc quand elle sera tranquille, ça ira mieux, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc Kruger, je joue Kruger, oui.
Ouais. Donc on est d'accord jusqu'ici sur Shelton, sur Kruger, mais pas sur la finale dame à Toronto. Dernier match, Diane Paris, 64e mondiale, va jouer contre Caroline Dollahide, qui est américaine et qui est 92e mondiale. C'est hyper serré au niveau des cotes, puisque c'est 1,94 la française et 1,90 l'américaine. Alors, on ne peut pas dire que ça soit la grande forme pour Diane Paris, qui vient de tomber en premier tour à Prague, donc sur dur, contre Ontama, 203e mondial, qui sortait des qualifs. C'était le premier tour à Prague, et elle a pris 6-4, 6-0, c'était fin juillet. Ses 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 5 défaites. Elle n'a joué qu'une seule rencontre donc contre Ontama depuis Wimbledon. Donc je ne suis pas sûr qu'elle soit prête, en fait. 9 victoires en 15 matchs depuis sa victoire au trophée Clarins. Mais sur dur, le bilan est très moyen. Hein. 9 victoires, 8 défaites. Et Dollarhide, elle est en confiance parce qu'elle a gagné récemment un petit tournoi ITF. Mais bon, ça fait toujours du bien. Elle a très peu joué cette année. Elle a que 18 matchs au compteur, 10 victoires et 8 défaites. Mais jouer encore une fois une Américaine à Cincinnati. Alors, je suis plus sûr de la victoire de Kruger que de celle de Dollarhide. Mais je vais quand même jouer une nouvelle fois l'Américaine, Eric, à 1,90.
Oh non, là, quand même, je peux pas. Dollarhide, c'est une fille qui a dû être blessée parce qu'elle est beaucoup plus haut que ça. Et elle a eu un quart, c'est ça, hein. Je crois. C'est une fille qui est très costaud, très puissante, mais il y a danger pour Diane. Il faut absolument qu'elle sorte vainqueur de ce match, parce qu'effectivement, depuis... je crois que le match de Wimbledon contre Kaniskaya lui a fait très mal, parce qu'elle a vraiment la possibilité d'aller au troisième tour. Elle est 8 points à 5 dans le super tie-break, et là, c'est un peu n'importe quoi, et elle avait donc malheureusement perdu ce match qui était vraiment à sa portée. Ça aurait pu ouvrir des belles portes, puisqu'à l'époque, elle était 49 mondiales, tu vois. Donc, elle pouvait vraiment faire un beau petit saut à la WTA. Et ce match lui a coupé les ailes, et derrière, elle a eu du mal à s'y remettre. Aussi qu'elle est fragile, souvent blessée. Elle est...
Non, mais tu te rends compte, elle a perdu contre la 203 mondiale. C'est inquiétant, non?
Oui, non, mais elle est moins efficace sur dur, ça, c'est clair. Hein.
Et voilà, mais c'est ça qui me fait jouer Dollarhide.
Oui,
ça, c'est sûr.
Ouais. Mais je pense quand même que Dollarhide part de trop loin. Donc je vais jouer Paris.
Jane Paris 1,94. Pour moi, ça sera Dollarhide 1,90. On est d'accord à 50% sur les 4 matchs qui nous intéressaient aujourd'hui pour ce podcast des Paris RMC. On voit tout ça demain. Merci beaucoup, Eric. Bon pari à tous.
Ciao.